de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver avec Guillaume Ploquin à la réalisation pour nous demander comment appuyer la recherche au sud sur le continent africain, comment mettre les chercheurs en réseau d'Abidjan à Dakar, de Niamey à Yaoundé, comment former des jeunes à l'expertise scientifique, comment dynamiser les collaborations sud-sud, mais aussi les interactions entre le monde de la recherche, les pouvoirs publics et les milieux économiques dans des domaines aussi fondamentaux que l'urbanisation, la gestion des risques, la sécurité alimentaire, l'agronomie ou la santé, comment renforcer les capacités scientifiques pour relever les défis du continent. Voilà ce que nous allons nous demander avec notre invité, le professeur Alphonse Yapidiaou, géographe et vice-président du comité scientifique du programme PARAF de l'IRD, de retour d'Abidjan pour un bilan à mi-parcours, autour de la question comment appuyer la recherche en réseau en Afrique. Bienvenue. Bonjour Alphonse Yapidiaou.
Bonjour Madame Lachowski.
Merci. Vous pouvez m'appeler Caroline. Vous avez le droit à Abidjan, vous le faisiez, hein, je crois.
Oui.
Alors on y va. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes géographe, Alphonse, spécialiste des questions urbaines et des métropoles du Sud. Aujourd'hui, vous êtes professeur à l'Université Paris 8 et directeur de l'école doctorale en sciences sociales, après avoir enseigné à l'École normale supérieure d'Abidjan et à l'Université de Boaké, en Côte d'Ivoire. Vous êtes également aujourd'hui impliqué dans de nombreux programmes de recherche en Afrique. Vous revenez donc d'Abidjan, où s'est tenu le bilan mi-parcours du programme PARAF, d'appui à la recherche en réseau en Afrique, de l'IRD, dont vous êtes le vice-président du comité scientifique. Il est aujourd'hui, Alphonse Yapidiaou, indispensable d'appuyer la recherche en réseau en Afrique, alors dans votre domaine, hein, sur toutes les questions liées à l'urbanisation, mais pas seulement.
En effet, pas seulement dans le domaine des recherches liées aux problématiques de l'urbanisation et des villes de façon plus globale, mais j'ai envie de dire, l'appui à apporter à la recherche en réseau s'adresse à tous les domaines de la recherche, à tous les champs disciplinaires, quels qu'ils soient. Parce que la recherche se mène justement dans une approche interactive, d'une part entre les disciplines, mais aussi prend en charge l'ensemble des questions qui constituent le fonctionnement quotidien, le devenir aussi des sociétés, des espaces, des territoires de façon générale.
Et l'intérêt, c'est d'avoir des regards croisés finalement de chercheurs de différentes disciplines sur toutes ces questions particulièrement cruciales au sud et sur le continent africain.
Le regard croisé, il est indispensable et j'ai envie de dire qu'il est indéniable. Les géographes ne peuvent pas prendre en charge, eux seuls, les questions qui touchent, par exemple, aux problématiques de l'agroalimentaire, de la sécurité alimentaire, aux problématiques qui intéressent également la santé, qu'on serait tenté de considérer comme étant un domaine réservé du corps médical. Mais en réalité, le domaine de la santé intéresse des disciplines qui vont de l'anthropologie à la sociologie, en passant par la géographie, et j'ai envie d'ajouter les sciences juridiques et économiques, qui développent aujourd'hui d'importants programmes sur les problématiques de la santé.
Autour de la question, comment appuyer cette recherche en réseau en Afrique? On commence par quelques pistes de réflexion sonore menées en commun, c'était à Abidjan, par les nombreux participants, donc chercheurs et étudiants, de ce programme PARAF de l'IRD. C'est le mix voix et regard croisé de Guillaume Ploquin.
Du fait que les moyens sont éparpillés, du fait que nulle part ailleurs ne sont concentrés tout ce qu'il faut pour la recherche, eh bien, il faut se mettre en réseau.
Je m'appelle Zenga Innocent. Je travaille précisément à l'Université Bangui en Centrafrique.
Alors, je suis le professeur Asako René Joly, professeur titulaire à l'Université de Yaoundé 1 au Cameroun.
L'intérêt de travailler en réseau, c'est que ça évite d'être isolé. Ça permet aussi de contrôler la qualité de ce que nous faisons.
La moindre réflexion que vous pouvez avoir germe toujours chez les autres et nous donne des pistes.
On a pensé que un réseau qui s'occupe des questions d'urbanisation, eh bien, puisse s'intéresser à tous les pays africains.
Nous sommes à Abidjan, en Côte d'Ivoire, effectivement.
Les villes africaines connaissent à peu près toutes les mêmes problèmes.
C'est une réalité, malheureusement, au Niger, comme dans beaucoup de pays en Afrique. On essaie d'aller vers la prévention des risques d'inondation.
Nous avons trois équipes au au Cameroun, une à l'université de Yaoundé 1, une autre à l'université de N'Djamena au Tchad, une en Tanzanie et une autre à Kampala. Donc ce n'est pas seulement l'Afrique de l'Ouest, c'est l'ensemble de l'Afrique.
Donc une coopération sud-sud peut se faire, mais je pense que même au niveau local, au point de vue de la Côte d'Ivoire, il y a des personnes qui ont fait beaucoup de travail en matière de microbiologie.
Parler de l'épidémiologie à Niamey, il y a très peu de gens qui font l'épidémiologie. Personnellement, je travaille sur les méningites. Je travaille également sur le paludisme et je fais quelques analyses de données pour appuyer certains chercheurs qui font des études sur d'autres maladies infectieuses.
Chacun apporte sa pierre à l'édifice pour une construction durable à long terme.
Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Vous voulez réagir à ce que vous venez d'entendre, Alphonse Yapidiaou? Vous avez reconnu quasiment toutes les voix, je pense.
J'ai reconnu toutes les voix, puisque la plupart de ses collègues, sinon pour ne pas dire tous ses collègues, étaient avec nous à Abidjan, soit en tant que porteurs de projets de réseau et en tant qu'animateurs de réseau, soit en tant qu'accompagnateurs de certains réseaux en qualité d'experts scientifiques.
Alors on va revenir justement sur ces différents réseaux du programme PARAF, donc de l'IR. C'est 7 réseaux de recherche qui sont financés. Il y a 8 projets de recherche qui sont adossés à ce réseau. En tout, il y a quoi? 90 laboratoires au sud, en Afrique, au Maghreb et en France qui sont associés.
Alors, ce sont 90 laboratoires en gros. C'est aussi un certain nombre de pays, il faut le dire. Qui dit un certain nombre de pays, dit institutions universitaires, centres et instituts de recherche, laboratoires de recherche. C'est tout cet ensemble, justement, qui a donné naissance et qui constitue ces réseaux. Alors, si vous voulez, je vais dire deux mots sur le programme PARAF, dont, justement, le bilan à mi-parcours a été l'occasion de cette importante réunion. Au fond, ce programme PARAF est l'aboutissement d'un ensemble de réflexions qui se sont soldées par la mise en place de différents programmes de recherche.
C'est-à-dire ce sont les chercheurs eux-mêmes qui se posaient des questions, se disaient comment faire pour qu'on puisse travailler plus ensemble, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas, et on va tenter de regrouper cela ensemble.
Alors, ces réseaux, justement, ont été créés à l'initiative de chercheurs eux-mêmes. Soit des chercheurs qui se sont rencontrés à différentes autres occasions, saisissant justement l'opportunité d'autres appels à projets, comme vient de l'être PARAF, ça a été les programmes CORUS, Coopération pour la Recherche Universitaire et Scientifique, ça a été aussi le programme Campus, plus ancien, ça a été aussi le programme Air Développement, qui a été l'ancêtre d'un programme comme CORUS, et plus récemment, ça a été le programme Air Sud, appui intégré pour le renforcement des équipes scientifiques au Sud.
L'idée, c'est quand même de dire que le développement est automatiquement lié, intrinsèquement lié à la recherche, que l'un ne peut pas aller sans l'autre, que la recherche est vecteur de développement et qu'il faut que cette recherche ait lieu en réseau, donc sur des domaines en même temps aussi variés que l'agriculture, l'environnement, la santé, l'urbanisation, la question des risques, la question de la sécurité alimentaire.
Je crois que penser la recherche, c'est penser le développement, inévitablement, parce que le développement n'aura de réalité qu'adossé justement à des dynamiques scientifiques extrêmement fortes. Parce que la recherche, elle se situe en amont du développement, parce qu'elle questionne justement les environnements, elle questionne les sociétés, elle questionne aussi les sociétés dans le cours de leur propre évolution. Et c'est tout cela mis bout à bout qui permet justement de penser les trajectoires du développement. Donc la recherche, elle est incontournable, elle est inévitable. Penser le développement sans penser la recherche, j'ai envie de dire tout simplement, c'est refuser le développement.
Autour de la question, comment appuyer la recherche en réseau en Afrique? On va prendre un petit taxi pour Bamako, si vous le voulez bien, Alphonse Yapidiaou. C'est Manu Chao avec Amadou et Mariam qui nous y conduisent.
Bon, on y va. We'll be right back.
Bamako, tu es ma seule cliente. Taxi Bamako, taxi Bamako. J'évite tous les trafics, les problèmes mécaniques. Aujourd'hui je t'emmène. Taxi Bamako, taxi Bamako.
Taxi Bamako sur RFI. Alphonse Yapidiaou, le géographe que vous êtes et qui réfléchit aux grandes questions d'urbanisme, se pose la question de la circulation dans des villes comme Bamako, Abidjan où nous étions, ou Dakar, embouteillage assuré toujours.
C'est une question récurrente, une question lancinante, parce que toutes les villes sont confrontées justement à l'engorgement et à l'impossibilité, voire aux très grandes difficultés de circuler. Et donc, comment expliquer ces embouteillages, parfois monstres ? À cela, on peut évoquer deux éléments. Le premier élément, c'est qu'on est dans des villes qui accusent justement des croissances extrêmement importantes.
Très rapides.
Premier élément d'explication. Face à cette croissance, les investissements ne suivent pas sur le front des infrastructures, premièrement. Deuxièmement, les services de transport collectif qui ont pu exister dans un certain nombre de grosses agglomérations dans les années 60, les années 70, voire dans les années 80, sont engagés dans un processus de déglingue, connaissent des dysfonctionnements. Du coup, ces systèmes de transport qui connaissent des difficultés sont relayés justement par des mini-taxis qui encombrent inlassablement
les villes, toutes les grandes villes.
Les voies de circulation et donc dysfonctionnement des services collectifs, croissance démographique, dénuement ou déséquilibre en infrastructure de communication sont là les trois éléments auxquels il faut faire référence pour comprendre ces encombrements qui caractérisent le système de circulation dans les villes africaines de façon générale.
Autour de la question, comment appuyer justement la recherche en réseau en Afrique sur ces questions notamment, nous continuons de faire le tour de ce programme PARAF de l'IRD avec cette fois-ci le directeur du comité scientifique, le professeur Michel Siméou Kamden de l'Institut National de Cartographie du Cameroun qui, comme vous Alphonse, cherche à relier entre eux tous les chercheurs de ces différents réseaux, notamment ceux de RubAfrique, ça c'est le réseau africain de recherche en urbanisation, et celui de gestion du risque hydrométéorologique dans les villes africaines, Riva. On écoute le professeur Kamden.
Du fait que les moyens sont éparpillés, du fait que nulle part ailleurs ne sont concentrés tout ce qu'il faut pour la recherche, eh bien, il faut se mettre en réseau. Alors, sur la question des risques, quand je prends un réseau comme Riva, qui part des observations météorologiques, il y a là-dedans des physiciens de l'atmosphère, des chimistes, n'est-ce pas ? Mais ils chutent sur la ville. Et la ville, comme principal lieu de concentration des populations, des richesses, se trouve finalement être la structure la plus à risque. C'est la structure qui souffrirait le plus des inondations. Beaucoup plus que les campagnes, parce que dans les campagnes, c'est quoi ? C'est quelques têtes de bétail, c'est de la production agricole. Mais c'est rien à côté de ce que représentent les villes. Elles sont en forte croissance, une croissance qui évidemment est loin d'être maîtrisée, une croissance dont l'installation des populations n'a pas été préparée. Les pouvoirs publics n'ont pas les moyens, ça il faut pouvoir le dire, de le faire. Et donc je pense que mettre ensemble les chercheurs d'horizons divers, ouais, permet d'échanger sur ce qui se fait ici et là, et donc de mutualiser les façons de faire. Ça c'est aussi un avantage de PARAF.
Vous voulez réagir, Alphonse, à cet éclairage du professeur Kamden de l'Institut de cartographie du Cameroun, justement sur la question des risques et du fait de travailler en réseau sur les risques dans les villes qui sont à risque, hein.
Je pense que Michel a parfaitement raison de mettre le curseur sur cette question des risques au moment où nous parlons de recherche en réseau. Michel a l'avantage d'être l'accompagnateur du réseau qui travaille justement sur les problématiques des risques hydrométéorologiques en ville de surcroît. Et l'intérêt, c'est que ce réseau est constitué de plusieurs équipes, deux équipes sahéliennes, des équipes du Sénégal et du Niger, et un ensemble d'équipes ivoirienne basée à Abidjan et à Korogo. Donc un ensemble, voyez, d'équipes issues de milieux
extrêmement différents,
climatiques extrêmement différents, mais qui demeurent confrontés au même type de risque, ici les risques d'inondation.
Oui, c'est les mêmes risques au fond dans les pays du Sahel et en Côte d'Ivoire, où pourtant la pluviométrie n'est pas du tout la même.
Pas du tout la même.
Mais ce sont les risques d'inondation qui sont les mêmes.
D'inondation. Et donc cela pose naturellement un ensemble d'interrogations, dont la problématique de l'aménagement des villes en question. Mais penser l'aménagement des villes présuppose de penser les villes elles-mêmes. Qu'est-ce qu'elles doivent être, ces villes-là ? Ce doit être des lieux de concentration de population, ou ce doit être aussi des lieux d'activité économique, de créativité, des lieux de vie, des lieux de loisirs, des lieux de circulation ? Donc, penser la ville suppose naturellement qu'on y réfléchisse. Et c'est tout l'intérêt, justement, de la recherche en réseau qui mobilise des chercheurs issus de contextes climatiques extrêmement différents, issus également de domaines et de champs disciplinaires extrêmement différents. On le voit avec Riva, ce sont des physiciens, ce sont des chimistes, ce sont des géographes, ce sont des sociologues. Pour vous montrer la nécessité de prendre en charge ces questions, dans un croisement des regards disciplinaires.
Et dans un croisement, à nos auditeurs, je crois qu'ils viennent là l'île Maurice, nous dit, mais est-ce qu'on n'oublie pas un peu parfois les sciences sociales dans ces programmes de recherche ? Justement, dans ce que vous dites là, d'ailleurs vous les défendez, il y a à la fois les sciences sociales, humaines, et des sciences plus dures, comme on dit, ensemble.
J'ai envie de dire que nos sociétés, de façon globale, commencent à se ressaisir et à regarder les sciences sociales autrement que par le regard qu'ils y ont jeté il y a ne serait-ce que 10 ans, 15 ans, 20 ans.
Aujourd'hui, on sait que c'est en réseau, en interdisciplinarité que ça peut avancer,
que ça
toutes
peut
ces
avancer,
questions-là.
Que ça peut avancer. L'isolement du chercheur est terminé.
Heureusement, l'isolement géographique comme l'isolement entre disciplines, un résolument transversal. Donc, autour de la question comment appuyer la recherche en réseau en Afrique, on continue, Alphonsia Pidiaou, de s'interroger et de chercher ensemble. Suite dans 3 minutes, on se retrouve juste après le flash d'info pour continuer de faire circuler les connaissances et les compétences et de réseauter, comme on dit à Québec, mais dans le bon sens en plus. À tout de suite.
Caroline Lachowski.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette deuxième partie autour de la question comment appuyer la recherche en réseau en Afrique. Nous sommes en compagnie du géographe Alphonsia Pidiaou, professeur à l'Université Paris 8 et vice-président du programme PARAF de l'IRD d'appui à la recherche en réseau en Afrique, qui a fait son bilan à mi-parcours à Abidjan en Côte d'Ivoire le mois dernier. Reportage sur place à l'Université Nangui à Brogoua d'Adjamé. Le professeur Arsène Zerobi du réseau PROVEGE faisait découvrir son laboratoire expérimental à tous les autres chercheurs venus de tous les coins d'Afrique. Regard croisé depuis Abidjan et commentaire d'Abdoulaye Gouro du Conseil National de la Recherche Agronomique du Niger.
Bon, d'ici, derrière la forêt, d'ici jusqu'au bout, jusqu'à la clôture là-bas, l'université est clôturée hein, comme l'université de Cocody. Donc toute cette bande-là est réservée aux expérimentations en station. Donc c'est cette parcelle-là que nous appelons station expérimentale de l'université Nangui-à-Brogoua.
Chaque pays a été spécialisé dans un domaine de recherche précis. Alors la Côte d'Ivoire a été spécialisée, elle doit développer un centre de recherche spécialisé sur la recherche sur les bananes plantains. Le Burkina Faso, c'est sur les fruits et légumes. Le Niger, c'est sur l'élevage. Le Ghana, c'est sur les racines et tubercules. Le Sénégal, sur les cultures sèches, etc., etc. Chaque pays a été spécialisé, mais dans l'intérêt de tous les pays membres. Il doit se reconstituer en centre régional d'excellence. Alors c'est de ce projet que parlait mon collègue Arsène. Eux, ils travaillent ici sur la banane plantain. C'est leur spécialité pour l'ensemble des pays qui cultivent la banane plantain en Afrique de l'Ouest.
Thank you. les recherches en réseau sur toutes ces questions agricoles, ça fonctionne, ça, dans toute l'Afrique de l'Ouest, Alphonse Yapidiaou.
Oui, alors, lorsqu'il s'est agi de mettre en place le réseau PARAF, il y a 4 axes thématiques qui ont été déclinés, dont justement l'agronomie et la sécurité alimentaire étaient l'un des axes forts.
C'est obligatoire, ça, aujourd'hui.
Naturellement. Ça. Naturellement, compte tenu justement de l'importance de l'agriculture sur le continent, en termes d'emplois créés, en termes donc de population mobilisée, mais aussi en termes de contribution aux produits nationaux bruts à l'échelle de tous les pays, quels qu'ils soient. Et en même temps, l'autre contribution de l'agriculture, c'est que l'agriculture, elle se fait industrialisante, c'est-à-dire, elle produit des denrées qui servent à alimenter et à faire fonctionner justement des entreprises agroalimentaires.
Donc on voit justement tout de suite, enfin même pour les chercheurs, ils ont tout de suite une sorte de débouché, ils sont tout de suite entendus, ce qui n'est peut-être... Et il y a des programmes, nombreux programmes de la FAO qui amènent à travailler justement en réseau sur ces questions de sécurité alimentaire. C'est peut-être plus facile, entre guillemets, que sur d'autres domaines qui sont moins immédiatement industrialisables ou applicables.
Je ne pense pas que ce soit plus facile pour l'agronomie, l'agriculture et les problématiques qui gravitent autour de ces domaines-là. Je veux parler en termes de sécurité alimentaire. C'est pas plus facile donc pour l'agronomie que ça l'est pour la santé. C'est compliqué pour tout le monde et pour tous les domaines, quels qu'ils soient.
Qu'est-ce qui est si compliqué justement aujourd'hui dans la recherche en Afrique, et pourquoi faut se mettre en réseau, pourquoi faut avoir un financement grâce à l'IRD, un financement du côté de la France, pourquoi c'est si difficile et pourquoi il faut absolument se mettre en réseau?
Je pense que il y a de gros efforts qui sont faits, surtout à l'échelle internationale, pour soutenir la recherche scientifique dans la plupart des contextes qui nous intéressent, c'est-à-dire les contextes africains et subsahariens particulièrement. De gros efforts sont faits. Il suffit de lire les offres des chercheurs pour se rendre compte, en parcourant leur CV, qu'ils ont tous, peu ou prou, émargé dans un projet avec des financements internationaux. Donc, la question qui est posé réellement à la recherche scientifique sur le continent, me semble-t-il résider plus dans l'institutionnalisation de la recherche elle-même, dans son organisation, dans son ancrage dans les institutions universitaires, que du côté des chercheurs. Les chercheurs, ils existent, ils ont envie de travailler, ils ne demandent que ça.
Mais est-ce qu'ils arrivent à poser les questions qu'ils veulent poser, ou est-ce qu'ils sont soumis au financement des bailleurs de fonds, aux questions que l'international, l'Europe, la France posent aux chercheurs africains? Est-ce qu'ils arrivent justement à poser les vraies questions qu'ils ont envie de soulever et à les poser dans leur contexte national?
Je pense que les préoccupations des chercheurs, parfois, croise celle des bailleurs de fonds. Et c'est de cette manière-là, à la faveur de ces croisements de préoccupations, qu'on arrive à mobiliser des chercheurs qui font des offres de recherche, qui mobilisent des équipes aux échelles locales, aux échelles nationales, aux échelles sous-régionales, voire internationales, pour s'engager dans les programmes comme le programme PARAF.
Qui a en plus une particularité, moi je l'ai vu à Abidjan, c'est qu'il y a énormément de jeunes chercheurs, d'étudiants qui sont intégrés dans ce programme. Il y a quand même une dimension là aussi de soutenir la recherche et de développer la recherche chez les jeunes, de la soutenir vraiment.
Alors, ceci est juste. Depuis une dizaine d'années, peut-être un peu plus, les différents initiateurs de programmes comme PARAF ont fait de l'implication des chercheurs, des étudiants de niveau avancé, mais aussi des utilisateurs des résultats de la recherche, utilisateurs autres que les institutions universitaires elles-mêmes, les conditions de financement des programmes de recherche.
C'est qu'il faut qu'ils soient en lien directement à la fois avec les jeunes étudiants, mais aussi avec des investisseurs privés ensuite, avec d'autres acteurs qui peuvent s'en servir.
L'implication des utilisateurs, qu'ils relèvent du champ des entreprises privées, qu'ils relèvent du champ des associations, qu'ils relèvent du champ de la décision administrative et politique, ces éléments deviennent aujourd'hui des conditions d'éligibilité des équipes à des financements.
C'est que les chercheurs sont au fond au milieu, en fait, entre les bailleurs de fonds, leur propre gouvernement, les investisseurs. Ils sont un peu à la croisée des chemins, à eux de...
Ben, je pense qu'il faut prendre conscience du rôle de médiation, quelque part, j'ai envie de dire, qui est celui du chercheur. Le chercheur mène des recherches à la fois pour répondre à des questions de société de façon globale, d'accord, ou en tout cas y contribuer, mais en même temps, le chercheur mène des recherches qui aident aussi à reproduire le système dont lui-même est issu, c'est-à-dire mener des recherches pour former, d'accord, et en même temps former aussi à l'occasion de ces programmes de recherche-là. Et donc, du coup, on se trouve dans une situation nouvelle où faire offre de recherche en mettant à l'écart les étudiants de niveau avancé, je pense aux étudiants qui sont en master, je pense à ceux qui sont des doctorants, cette façon de faire la recherche, elle n'a plus cours aujourd'hui.
Elle ne marche plus, elle ne doit plus marcher.
Elle ne marche plus.
Tant
et
mieux,
heureusement
tant
qu'elle
mieux.
Ne marche plus, d'ailleurs. Moi, je suis de ceux qui militent justement pour une implication plus forte.
Des étudiants.
Des étudiants.
Qui, du coup, permettrait aussi de relever, on va y revenir, hein, ce qu'est la recherche et d'apporter aussi dans les sociétés.
C'est une autre façon de concevoir la recherche, de la mener. Et si on veut pérenniser la recherche dans ces contextes qui nous intéressent maintenant, c'est la seule voie qui, me semble-t-il, s'offre
aux chercheurs aujourd'hui. Alors, parmi les thématiques qui sont porteuses pour le Sud comme pour le Nord, il y a évidemment toutes les questions environnementales. Dans PARAF, il y a le réseau CASA, c'est le réseau carbone des sols pour une agriculture durable en Afrique. Un réseau qui tente donc de mutualiser les expertises et les essais aussi de stockage de carbone des sols. Il est coordonné par l'université d'Antananarivo à Madagascar. Et ce réseau associe en gros une vingtaine d'équipes de recherche. Ça va du Sénégal jusqu'au Tchad, en lien aussi avec des chercheurs français de l'IRD et du CIRAD. En Côte d'Ivoire, nous avons ensemble visité un site forestier qui en est encore à ses débuts, une tentative, j'ai envie de dire, d'agroforesterie, mêlant cocotier et acacia, regard croisé et réaction juste après cette visite de Mam Ouraïssi. Elle est enseignante-chercheuse à l'UQAD à Dakar en physiologie et biotechnologie végétale.
En fait, le site qu'on a visité, c'est en rapport avec la séquestration du carbone. Il y a une plantation, une cocoteraie, dans laquelle on avait des pieds d'acacia manchium qui se trouve être une légumineuse. Et donc, effectivement, en matière de séquestration de carbone, les acacias peuvent beaucoup apporter, de par la litière et autres. Mais moi, en tant que physiologiste et biotechnologiste végétal et universitaire en même temps, le côté que je voyais, c'est l'association symbiotique. Parce que effectivement, il est connu que les acacias peuvent apporter un volet fertilisation biologique à travers la fixation d'azote, parce que ce sont des plantes qui peuvent fixer l'azote puisqu'ils hébergent des bactéries au niveau de leurs racines. Une symbiose, c'est toujours un échange à bénéfice réciproque. Donc cela peut fertiliser les sols et les racines des cocotiers peuvent en profiter. Donc je demandais au coordonnateur qui gérait cette parcelle, est-ce que d'un point de vue microbiologique, il aurait été intéressant de regarder, par exemple, au niveau des pieds d'acacia qu'ils ont introduits, avant de faire l'introduction, est-ce qu'ils avaient regardé la microfaune au niveau du sol et voir s'il n'y avait pas des bactéries fixatrices du sol qui existeraient à l'état endémique, qui existent dans le sol. Parce qu'il est connu que quand on apporte des bactéries d'autres provenances, et qu'on met les plantes dans le sol, on les plante, cela va entraîner ce qu'on appelle une sorte de compétition entre les souches importées, disons, et les souches endémiques.
D'où l'importance de ces regards croisés de chercheurs de toute l'Afrique de l'Ouest sur ce genre de questions.
Tout à fait, c'est-à-dire quand on met en place un essai, qui est en rapport avec la séquestration. Je pense qu'il ne faut pas seulement regarder le côté gain de carbone, mais d'autres disciplines peuvent apporter leur contribution, notamment des microbiologistes, regarder la microfaune. Ça peut être des physiologistes, regarder le développement de la plante et voir en termes de profit, qu'est-ce que cela peut apporter d'autre. Parce qu'on parle d'enrichissement, on parle de fertilisation, on parle de développement durable. Donc c'est quelque chose qui doit se faire à long terme et chacun peut apporter sa contribution.
La contribution de Mamoura ici, donc enseignante chercheuse à l'UQAD à Dakar et membre du conseil scientifique de PARAF, c'est important, Alphonse Apidiaou, ses regards croisés et ses observations aussi sur le travail des autres par des chercheurs parfois plus expérimentés.
On est obligé de passer par là. Vous savez, c'est la recherche se fait aussi par transmission d'expérience. J'ai envie de dire, simplement. Et donc, notre collègue qui vient de s'exprimer, justement, sur le carbone des sols, elle accompagne un des réseaux, en particulier le réseau qui travaille sur la protection des végétaux, mais elle est très fortement présente sur les problématiques de l'agronomie, dans son domaine de compétences, et elle a été présente dans les programmes précédents dont PARAF est la continuité. Elle a accompagné différentes équipes qui aujourd'hui se sont regroupées pour donner naissance à ce réseau que nous appelons PROVEGE, parce que protection des végétaux.
Il y a une vraie expertise de tous ces chercheurs, de cette chercheuse, de vous en tant qu'urbaniste et d'autres qu'on va entendre ensuite. Il y a une vraie expertise de chercheurs en Afrique qui essayent aujourd'hui de transmettre, parce que c'est quand même ça.
C'est cela. Nous essayons chacun à son niveau, au niveau qui est le sien, en fonction de ce qu'il peut apporter, bien sûr, d'être présent sur le front de l'accompagnement. Et c'est ce que nous essayons de faire. Mais en même temps que nous accompagnons, j'ai envie de dire aussi que nous apprenons beaucoup de nos collègues que nous accompagnons sur le terrain.
Même des plus jeunes, le fait que ce soit transdisciplinaire.
C'est transdisciplinaire, c'est aussi, j'ai envie de dire, transgénérationnel. Mmh. Dans la mesure où les regards que peuvent porter des jeunes doctorants, voire des étudiants qui sont en master, sur des phénomènes que nous avons peut-être questionnés il y a 10 ans, 15 ans en arrière, mais qui s'inscrivent dans des environnements institutionnels, politiques, géographiques.
Ah, ils sont plus frais, ils ont un autre regard, plus frais finalement. Hein.
Et donc, il y a aussi à ce niveau un croisement des regards que nous opérons. Il faut en prendre conscience et ajuster son mode de fonctionnement lorsqu'on intervient en faveur ou aux côtés d'une équipe, d'un réseau, etc.
Et ça, c'est quand même un joli renversement de situation aussi en Afrique où parfois les professeurs d'université sont un peu pesants sur les jeunes. Là, vous renversez hein, ce paradigme-là.
Est-ce que je renverse ? C'est la conception que j'ai des choses. Il est évident qu'un doctorant ne sera pas un professeur au moment où il prépare sa thèse. Il a besoin du professeur.
Mais il peut inspirer un peu le
professeur. Mais il peut inspirer le professeur par ses questionnements qui viennent justement innover la recherche. Sinon, on ferait du surplace.
Absolument. Autour de la question, comment appuyer la recherche? Comment innover? Comment former les jeunes en réseau à l'expertise scientifique? On écoute Tikenja sur RFI. Laisse-moi m'exprimer.
Appris à marcher, on voudrait te voir tomber. À peine appris à parler, on aimerait te voir mieux. À peine appris à sourire, on te promet déjà le pire. Oh, 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 laisse-moi m'élever. Oh, 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 laisse-moi m'exprimer. Tu fais face à la réalité. À peine appris à chanter, on t'a déjà bâillonné. Oh, 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 laisse-moi m'élever. Oh, 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 laisse-moi m'exprimer.
ouvre déjà les ailes, à peine appris à planer. Qu'on t'interdit le ciel, à peine appris à courir, qu'ils te disent de ralentir. Oh, 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 laisse-moi m'élever. Oh, 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 laisse-moi m'exprimer.
Tikenja Fakoli sur RFI, laisse-moi m'exprimer en compagnie du professeur Alphonse Yapidiaou, géographe et expert des questions d'urbanisation au Sud. Autour de la question comment appuyer la recherche en réseau en Afrique, je vous propose un dernier éclairage depuis Abidjan, recueilli lors du bilan mi-parcours de ce programme PARAF, celui du professeur René Joly Asako Asako, qui coordonne à Yaoundé au Cameroun le réseau africain de recherche en urbanisation et qui revient pour nous sur le rôle du chercheur justement sur et dans les villes africaines. Est-il assez entendu, professeur Asako Asako?
Le rôle du chercheur, c'est le rôle de l'expert. Nous apportons de l'expertise, nous apportons de la consultance, nous apportons des conseils, mais c'est pas à nous de décider. Il arrive dans beaucoup de cas heureux qu'on tienne compte des avis des techniciens dont de la ville que nous sommes. Mais bien souvent aussi, il se trouve que nos avis techniques soient à l'encontre des ambitions de ceux qui doivent décider. Mais on est bien obligé de se rendre compte que lorsque on n'a pas tenu compte de l'expertise technique, eh bien les conséquences des politiques se les ramassent, et la société aussi. Donc, nous sommes des experts, nous donnons des avis, mais la décision n'est pas de notre ressort.
Et des experts en réseau, ensemble.
Oui, des experts en réseau. D'autant plus en réseau que les problèmes sont les mêmes partout. Que vous alliez à Abidjan, à Kampala, à Dar es Salaam, à Yaoundé, à Douala, à N'Djamena, c'est les mêmes problèmes partout. C'est l'urbanisation anarchique, c'est l'habitat précaire, c'est la pauvreté urbaine, c'est la stratigraphie sociale au détriment des couches les plus faibles, faibles par rapport à leur niveau de revenu, à leur pouvoir d'achat. C'est partout le désengagement de l'État, pas vraiment un désengagement volontaire, mais un désengagement que je peux considérer de raison, parce que l'État est de plus en plus conscient qu'il ne peut pas, à lui tout seul, comme cela a été pensé dans les années 60, au lendemain des indépendances, que l'État peut être un État-providence qui peut résoudre tous les problèmes. Bien, on est obligé de se rendre compte, à partir notamment de la crise des années 80, que cela n'était plus possible. Maintenant, on a l'intervention du secteur privé, des particuliers, mais le problème est celui des rôles. Le rôle de l'État, c'est un rôle de régulateur, c'est pas un rôle de recherche de profit, c'est un rôle de permettre à tous les citoyens de voir leurs besoins essentiels satisfaits, comme par exemple le logement, comme par exemple le déplacement dans la ville. Ce qui n'est pas du tout le cas des investisseurs qui, eux, ils cherchent leur profit le plus haut possible et le plus vite qu'il soit possible. Donc, à partir du moment où ce sont plutôt ces investisseurs-là qui se substituent à l'État, on a bien le sentiment qu'on est passé à côté de la résolution des problèmes sociaux qui ne sont pas de l'ordre des préoccupations des investisseurs.
Être urbaniste, Alphonse Yapidiaou, c'est aussi se confronter aux politiques ou au manque de politique aussi.
C'est difficile de parler de manque de politique. Pendant longtemps, on a pensé que les villes connaissaient, en tout cas certaines, ou certaines franges, connaissaient des évolutions spontanées. Spontanées, ça ne veut rien dire. Rien du tout. Et ce qu'on peut considérer comme étant une absence de politique, j'ai envie de dire, c'est aussi une façon de faire de la politique des villes. Puisqu'on ne regarde...
Le laisser faire.
Le laisser faire est aussi une façon de faire la politique des villes. Puisqu'on ne s'en occupe pas, on laisse les choses évoluer au gré des acteurs considérés qui sont sur les territoires, qui sont dans les espaces, qui sont dans les quartiers, etc., etc.
Mais du coup, pour vous, géographe, chercheur en urbanisme, il s'agit de relever le défi, de faire porter le regard. Vous avez parlé notamment, vous avez travaillé, je crois, sur le défi des périphéries, enfin, de faire porter le regard sur tous les défis des villes africaines, des mégalopoles africaines aujourd'hui.
Il y a beaucoup de choses qui sont écrites sur les villes africaines. Si on prend une ville comme Dakar, c'est une ville qui est très, 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 très largement étudié. Brazzaville est aussi, Yaoundé, Abidjan est très étudié, Lagos l'est, etc., etc. Toutes les villes, j'ai envie de dire, sont largement étudiées.
Donc c'est pas ça qui manque.
C'est pas, ce ne sont pas les réflexions qui manquent. Ce qu'il faut essayer maintenant, tout en ne renonçant pas au travail de réflexion, qui doit se poursuivre parce que les villes sont en mouvement permanent. Et donc, il faut accompagner ce mouvement par des activités de recherche renouvelées sur des thématiques qui ont été fouillées, qui ont été moulinées. Mais il faut y revenir pour voir ce qui a changé, comment on les prend en considération.
Donc, continuer la recherche, continuer la réflexion.
Voilà.
Et se faire entendre.
Et se faire entendre. Mais se faire entendre, c'est identifier le partenaire, c'est identifier l'auditeur. Et là se trouve tout le problème de la recherche. Vous comprendrez que d'entrée de cette émission, j'avais indiqué que la recherche pose la question de son institutionnalisation. Il faut institutionnaliser la recherche.
Il faut qu'elle soit un acteur fondamental.
Il faut qu'elle soit un acteur fondamental et qu'elle soit considérée comme telle dans toutes les sociétés africaines en particulier. Que toutes les institutions aujourd'hui sur ce continent, on est à l'heure de la décentralisation. Je veux dire, la décentralisation, elle est pas, il ne s'agit pas de lotir. Lotir, c'est priver les villes, par exemple, d'espaces qui, jusqu'à peu, ont été consacrés à des activités qui d'élevage, qui à des activités agricoles. Mais que fait-on de ces agriculteurs qui, à la faveur de la progression de la ville, perdent leur outil de travail?
Ce sont des vraies questions.
Donc, poser la question de l'outil de travail de l'agriculteur ou de l'éleveur, on en revient aux préoccupations, par exemple dans le cadre du programme PARAF, des agronomes. On en vient à la question de nos collègues qui travaillent sur les problématiques de la sécurité alimentaire.
Donc il faut, on va terminer là-dessus, poser les bonnes questions, que les chercheurs posent les bonnes questions et puissent être entendus par qui de droit. Parce que c'est ça aussi, continuer de réfléchir et soient entendus.
Puissent être entendus, mais que les chercheurs fassent l'effort
d'aller
vers, c'est-à-dire de sortir des murs d'enceinte des universités, laboratoires et centres de recherche pour aller, par exemple, vers les chambres consulaires, pour aller vers les collectivités locales et territoriales.
Et c'est ce qui notamment aujourd'hui est fait aussi et cultivé aussi dans ce programme PARAF. On va terminer là-dessus en encourageant les chercheurs de sortir de leurs universités et de continuer, comme vous, à former des jeunes.
Justement, à travailler avec les utilisateurs des résultats de la recherche.
Merci infiniment, Alphonse Yapidiaou, d'être venu dans notre studio sur RFI pour nous faire partager donc toutes ces pistes de recherche et de réflexion en réseau à suivre, à poursuivre pour en savoir plus. Le lien est bien sûr sur notre page avec le programme PARAF de l'IRD. Merci à vous.
Autour de la question sur internet www.rfi.fr.
Demain, on parlera d'amour. Pourquoi tant d'amour pour nos chiens et nos chats? Regard croisé encore d'un historien, d'une philosophe et d'un vétérinaire sur ces amours pas chiennes du tout qui en disent très long sur nous. À demain, mes auditeurs, dans une poignée de secondes, un nouveau journal sur RFI.